Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Docteur Mike Honest, vous êtes l'auteur primé de 4 livres de non-fiction. Vos thèmes préférés sont la corruption, l'exploitation minière et les conflits. Et votre troisième livre, Still a Pygmy, est une collaboration avec le militant congolais Isaac Bachirongo, le premier Twa autochtone à avoir publié ses mémoires. Et vous venez de sortir un autre ouvrage, Cold Case North, la recherche de James Brady et Absalom Halkett. Bienvenue au programme français de la SBS.
Merci bien, c'est un grand plaisir.
Et voilà, nous nous entraînons aujourd'hui en marge du festival Raising Peace Festival, un événement organisé par l'ONG Hand Up Congo, et un événement pendant lequel vous avez animé un débat autour du lancement australien de l'ouvrage de Séverine Hautesserre, The Frontlines of Peace, An Insider's Guide to Changing the World. Tout d'abord, un commentaire sur cet ouvrage, Dr. Mike Honest.
Oui, merci bien, Bertrand. Donc, en fait, c'est moi qui ai introduit Séverine à Lucy Hopgood-Brown, le directeur d'un petit ONG, Hand Up Congo, qui travaille en Australie, surtout à Sydney, mais aussi pour les Congolais au Congo, République démocratique, en Afrique. Je comprends qu'en Australie, au niveau communautaire, il y a beaucoup d'intérêt sur le pays et les méthodes d'améliorer le pays et réduire le conflit. Grâce aux petits ONG comme Hand Up Congo et les autres ONG aussi, et bien sûr les grandes comme Oxfam, il y a beaucoup de liens entre l'Australie et l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et un intérêt, un esprit très profond de créer ou contribuer aux situations à l'étranger. Le livre de Séverine, The Frontlines of Peace, en fait, comme bien sûr, elle vous va expliquer qu'il y a beaucoup de commentaires dans le secteur académique et comme les praticiens sur le pays qui est négatif. Il y a beaucoup de faiblesses dans les systèmes internationaux, regarde l'Afghanistan, mais elle a trouvé dans sa recherche qu'il y a beaucoup d'exemplaires, beaucoup d'individus qui comprennent bien les méthodes de créer un contexte, une situation paisible et identifier les gens qui ont la capacité de créer les liens entre deux groupes qui se battent. Ce livre est le contraire que beaucoup d'autres travaillent et analysent sur ce sujet parce qu'elle a décrivé beaucoup d'exemplaires au niveau communautaire où les gens peuvent créer les bons liens. C'est un livre optimistique et c'est un livre d'espoir.
En effet, un livre d'espoir. Séverine Hautesserre parle de l'industrie de la paix. Elle couvre tous les protagonistes et surtout des acteurs de base. Quel est votre regard là-dessus et surtout vous qui êtes aussi un spécialiste en la matière?
L'idée qu'il y a une sorte d'industrie Peace Inc. Le pays, c'est le pays à but lucratif. C'est cette idée qui a vraiment bouleversé les gens qui travaillent dans ce secteur. Parce qu'il a résisté. Il a dit non, c'est pas pour. Nous ne sommes pas comme une industrie. Nous en croire sur le pays de la terrenne, nous comprenons bien la situation là-bas, nous sommes les experts. Et Séverine a expliqué qu'en fait, il y a des pratiques et des idées en commun dans beaucoup d'organisations internationales sans but lucratif, mais aussi les grandes organisations, institutions comme l'ONU, par exemple, et PNUD, ils partagent la même culture organisationnelle. Vraiment, cette idée bouleversait le secteur. Je suis d'accord que c'est vrai, on partage les idées, les pratiques, mais aussi un peu de snobisme sur la capacité des gens de l'étranger de comprendre très vite et de travailler immédiatement sur les problèmes d'une autre communauté sans parler la langue locale, sans avoir beaucoup de connaissances sur les religions locales, quelquefois, et la culture locale aussi. C'est cette idée qui est puiser les gens qui travaillent dans ce domaine de réfléchir. Et ça, c'est la première chose et c'est très important. Donc, elle peut expliquer en détail pourquoi et toutes les détails de son thèse. Ouais.
Et vous-même, vous avez beaucoup écrit sur les conflits. Un de vos premiers ouvrages, c'est celui qui parle du coltan, est un des tout premiers à mettre en lumière le coltan, non seulement comme matière première de toute première importance, mais aussi le coltan comme vecteur de conflits également.
Au niveau d'analyse, il n'y a pas de bonne connexion entre les gens qui travaillent sur les aspects économiques d'un pays et les aspects politiques. Bien sûr, il y a beaucoup de liens entre les deux. On sait qu'au Congo, par exemple, ou en Afrique centrale, en général, ce n'est pas juste le coltan, mais aussi l'or, le tungstène, wolframite et les autres minéraux qui créent les problèmes. La grande question est quel est le rôle pour les grandes sociétés minières de payer pour le pays, de soutenir le pays ou pour contribuer au processus, à un processus politique. Donc, il y a beaucoup de défis. C'est vrai que l'activité artisanale minière crée beaucoup de boulot pour les gens et c'est très important au Congo, par exemple. Il y a peut-être presque quoi, c'est 5 à 10 millions de personnes qui trouvent un salaire de ce secteur. Les gouvernements au niveau national ou territoire n'aiment pas les artisans, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne payent pas beaucoup de taxes. Mais les grandes entreprises peuvent payer du taxe. C'est plus facile parce qu'il y a une seule entreprise et on peut demande les royalties, par exemple, les taxes. Il y a une tension entre les deux questions. Bien sûr, les gens n'aiment pas les grandes entreprises qui occupent leur territoire, le domaine. Mais pour le gouvernement, il y a beaucoup de défis de jeter les artisans. Et normalement, ils veulent ça. Et les entreprises, bien sûr, ils veulent la même chose. Donc, éviter toutes les concessions, tous les terrains pour les grandes entreprises. C'est très compliqué et il y a beaucoup de conflits dans n'importe quelle solution. En fait, c'est très difficile. Mon travail se concentrait sur, c'est vrai, sur le rôle des minéraux, sur les conflits comme au Congo, mais aussi il y a beaucoup des autres raisons, beaucoup d'autres plaintes non connectées aux minéraux qui créaient le conflit.
Vous avez beaucoup travaillé sur le terrain et vous avez écrit non seulement sur le coltan, mais vous avez aussi exposé d'autres sources de conflits. Et lors de notre dernière conversation sur les antennes de la radio SPS, vous aviez relevé la situation des Pygmées, les Twa du Congo, qui sont les indigènes de la région. Surtout que même en dehors des conflits armés, les Pygmées sont tout au bas de l'échelle socio-économiques et ils sont complètement marginalisés. Quelle est votre lecture de la situation aujourd'hui, en ce mois de septembre, dans la région des Grands Lacs et au-delà?
C'est une bonne question et c'est une question très difficile de répondre. En fait, ma vision est que les visions des Congolais sont reconnues par les autres. Ça, c'est la première fois, parce qu'il y a les étrangers qui imposaient leur vision au Congo, en Afrique centrale, pendant 200 ans. Vraiment, ce n'est pas pour nous, les étrangers qui n'habitent pas au Congo, d'articuler une grande vision pour là-bas. Je sais qu'il y a des Congolais avec beaucoup de capacités, beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup des idées qui peuvent créer les bons programmes, les bons projets pour promouvoir le pays. Et en fait, ma réponse et ma vision est que les amis de l'Afrique centrale, les amis du Congo peuvent soutenir financièrement, premièrement, un processus de pays et avoir de confiance sur les gens qui habitent là-bas. Je comprends que quelquefois, l'élite internationale peut créer des mouvements du pays. Par exemple, si le premier ministre du France ou des États-Unis ont des entretiens, les rencontres avec les élites du Congo et les présidents là-bas, il peut gagner un esprit de respect et d'énergie pour quelques changements. Donc ça, c'est très important. Mais un processus comme ça, sans les communities, sans les chefs, sans les notables de l'Église, des territoires, probablement va tomber très vite.
On me reconnaît, depuis votre dernière publication sur les Pygmées, on vous avait accueilli sur les antennes de la radio SBS, bien on ne vous a plus vu, on ne vous a pas beaucoup vu en Australie. Et avec les restrictions de voyage, on ne risque pas de vous voir de sitôt. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment?
En fait, je travaille comme consultante depuis 2012 jusqu'à maintenant. Pendant la pandémie, je pouvais travailler chez moi. J'ai fait beaucoup de recherches, surtout sur les connexions entre les projets de le changement climatique et la corruption. Je fais beaucoup de travail dans le domaine contre la corruption. À cause de tout l'argent, donc je pense maintenant il y a presque, c'est quoi, un dollar australien, c'est 650 millions de dollars australiens dans ce domaine. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour la corruption et l'urgence du changement, d'arrêter le changement, a créé une sorte d'atmosphère de laissez-faire sur la gestion de l'argent. Donc, ça, c'était mon bout pendant les derniers ans. Autre chose, j'ai créé un autre livre, donc peut-être intéressant pour vous. Le titre est Cold Case North. Il a été lancé il y a 10 mois au Canada. Donc, c'est sur deux activistes autochtones au Canada, au nord du Canada, qui ont disparu. Tout le monde pense qu'il était assassiné par 3 hommes, leur collègue de business dans une petite entreprise minière, en fait. La suggestion est que les partenaires blancs ont les tués, ont les assassinés pour gagner une grande concession de l'uranium. Donc, c'était une très, très intéressant. Tout se passe en 1967, donc il y a 50 ans. Mais en fait, nous avons trouvé l'endroit où le corps reste. Probablement, c'est dans un lac très profond au nord du Canada. C'est une vraie aventure. C'est dans un lac où Jacques Cousteau a tourné un documentaire en 1973. Donc, c'est très intéressant. Et c'est son chalet où nous avons resté pendant notre voyage au lac pour trouver les corps. En fait, ce n'est pas possible de trouver le corps il-même à cause du manque de technologie, mais nous sommes sûrs que le vrai endroit était identifié et on a identifié l'assassin. C'est une petite histoire du Canada, donc c'est très intéressant. Et l'un des activistes, il s'appelle Jim Brady and Absalom Helkett. Donc Jim Brady, il a été très connu à l'ouest du Canada pendant les années 40, 50 et 60 pour son activisme contre le gouvernement, contre le business et en fait contre l'Église, surtout l'Église catholique au Canada. Donc il était très connu. C'était un grand mystère. Qu'est-ce qui se passe avec Jim Brady? Il a totalement disparu de son camp il y a 50 ans. Dans mon nouveau livre que j'écris avec deux autochtones, donc c'est une collaboration, nous expliquons notre propre histoire de recherche.
Là, vu d'ici, on ne le saurait pas, on ne saurait pas qu'une chose pareille puisse se produire au Canada.
En Australie, beaucoup de gens pensent que le Canada est en fait pas très différent que l'Australie. Donc, c'est un pays blanc, c'est un pays de moyenne classe. Mais les deux parties du Canada où j'habite, où je travaille, c'est le Canada autochtone du nord du Canada et c'est complètement différent que l'Australie des banlieues, l'Australie des grandes villes. Mais aussi, j'habite au Québec. À Montréal, le Québec, le Canada francophone est totalement différent encore que l'Australie et le Canada anglophone. C'est un plaisir et une aventure de explorer les deux sous-mondes du Canada.
Et vous qui habitez dans une région à majorité aborigène du Canada, et vous êtes d'origine australienne, est-ce que vous voyez des parallèles entre la situation des aborigènes du Canada avec la situation des aborigènes d'Australie?
Donc, bien sûr, il y a les différences, ça c'est naturel entre les deux pays, mais l'histoire de cruauté est le même dans les deux pays. La plus grande différence que je note à cause de mon travail est en Australie, ils ont plus en avance sur la question de la corruption et de gouvernance dans les organisations autochtones, en comparaison au Canada. Mais en fait, au Canada, il y a beaucoup plus en avance sur la question de l'autonomie de la communauté ici. En Australie, je pense que le gouvernement, au niveau d'État ou fédéral, veut continuer de contrôler les organisations, les communautés autochtones. Mais au Canada, c'est différent. Donc, c'était un bon défi pour eux, mais ils ont plus d'indépendance et plus d'autonomie. C'est intéressant.
Et pour revenir sur le livre Cold Case North, est-ce qu'il y a eu une enquête sur la mort et la disparition de l'activiste aborigène? Quelle a été la suite?
L'assassin est mort il y a 12 ans. Il y a une deuxième enquête par le coroner. En fait, il y a deux gens, James Brady et Absalom Helkett. En octobre, il y a une deuxième enquête, donc 53 ans plus tard, sur Absalom Helkett. La fille de Absalom veut avoir un certificat de mort pour lui. Donc, c'est un processus légal. Donc, et notre livre peut créer une autre opportunité pour elle. Pour James Brady, la famille pense un peu différente sur la situation et ils ont moins pressé pour récupérer les restes, en fait. Oui.
Cold Case North a été publié il y a 10 mois, comme vous l'avez indiqué. Où est-ce qu'on peut s'en procurer en Australie?
Je sais que Gleebooks et Dimix ont commandé quelques exemplaires, mais en fait, probablement, c'est plus facile de commander en ligne. Le titre encore est Cold Case North. Et la maison d'édition est University of Regina Press.
Dr. Michael West, un mot de la fin avant de nous quitter.
Dans mon travail, mes publications et votre émission et le travail de Séverine, il y a beaucoup de connexions dans le monde. Tous les domaines sont se connectés, n'est-ce pas? Je travaille, je collabore avec les gens autochtones. Je travaille sur les questions socio-économique et politique en Afrique centrale. Séverine travaille sur les questions de pays et votre travail est d'expliquer et communiquer les idées neuves au monde. Et en fait, il y a une grande connexion entre nous et donc le monde, c'est un message positif parce que nous sommes voisines dans le monde, n'est-ce pas?
Docteur Michael Nest, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ok, merci bien. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.